Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données directement par Dieu, notre Père et le Père de Jésus-Christ. Nous chantons ensemble la louange à Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le livret liturgique qui est au début du psautier français. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger. Nous sommes la famille à qui tu as donné la vie. Je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 95b que vous trouverez donc dans le psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur, les trois premières strophes de ce psaume de louange à Dieu. Vous pouvez prendre place pour entendre ce que Dieu nous propose de vivre selon l'évangile du Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Ce que je vous propose de faire en suivant cette prière d'Ambroise de Milan au IVe siècle. Viens, Seigneur, et cherche ton serviteur. Viens, bon berger, et cherche la brebis épuisée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi et porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches. Tu places sur tes épaules celui que tu trouves. Et ce fardeau n'est pas pour toi une charge, mais une joie. Viens donc, Seigneur, viens chercher ta brebis, viens toi-même, et porte-moi, toi qui es salutaire à ceux qui sont perdus, toi qui es le repos des fatigués, toi qui es vivifiant pour les mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et la joie dans le ciel. Viens, mon bon berger. Et voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun. « Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer dans sa façon d'être et vivre. » Et déjà, maintenant, Dieu se penche vers nous en Christ et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alors nous accueillons avec joie en ce dimanche la jeune Sophie qui va recevoir le baptême. Vous la reconnaîtrez parce qu'elle est habillée en blanc avec un petit chapeau blanc aussi. Bienvenue à sa grande sœur Iris qui a été baptisée aussi ici et puis à ses parents Cathy et Damien Nouvelle et à ceux qui vous entourent même qui sont venus de Milan, voilà comme Saint Ambroise dont nous avons entendu un texte à l'instant. Alors l'Église vous accueille franchement, avec grande joie. Ce signe du baptême d'un bébé, ça manifeste de la liberté de Dieu, d'ouvrir une alliance pour nous et puis de nous aimer, même unilatéralement. Et cet amour inconditionnel, bien manifesté par le Christ, cette grâce de Dieu qui fonde cette liberté que nous avons ensuite d'avancer dans notre cheminement, de confesser ou de ne pas confesser notre foi, eh bien, c'est quelque chose qui est fondamental et qui donne aussi du sens au baptême d'adultes, puisque nous avons la chance aussi d'avoir le baptême d'un étudiant qui a demandé à être baptisé aujourd'hui. Et donc, l'adulte, il reçoit le baptême en conscience, mais il n'a pas à la mériter non plus par une confession de foi, comme la petite Sophie. Et cet amour que nous recevons, manifesté par le baptême, eh bien, nous ouvre la possibilité de vivre en dehors de tout chantage que Dieu pourrait mettre pour nous faire avancer. En louange à Dieu pour cette incroyable beauté de la vie humaine, eh bien, nous allons entendre
un psaume que Marie, donc la marraine de Sophie, va nous lire, le psaume 8.
Psaume 8, du verset 2 jusqu'à la fin. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Merci beaucoup. Et donc oui, cette petite Sophie, que Dieu a fait presque l'égale de Dieu, elle sera par son baptême chez elle dans la communauté chrétienne. Aucune contrainte ne l'y retiendra. Et si jamais elle venait à s'en séparer, sa place resterait toujours marquée, toujours prête pour la recevoir avec grande joie. Pour répondre à la bonté de Dieu, qui la reçoit donc même unilatéralement dans son alliance, vous resterez pour elle un exemple et un appui. Vous prierez pour elle, vous l'instruirez, vous la soutiendrez, vous l'aimerez, afin qu'elle ait la possibilité de parvenir elle-même à la foi, et qu'elle puisse répondre un jour en toute liberté, si elle le désire, à la grâce signifiée par son baptême, en reconnaissant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors je vous propose de vous approcher avec Sophie, donc de ce baptistère. Il faut enlever le petit chapeau, malheureusement. Pourtant, c'est drôlement mignon. Sophie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Sophie, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne et qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Alors c'est vrai que tu es bien entourée pour découvrir cette lumière et cet amour de Dieu avec donc une grande sœur, avec d'autres familles autour de toi, avec des parents qui t'aiment et puis des parrains et marraines qui sont là pour t'accompagner. Alors, vous serez là, vous tous, pour accompagner Sophie et qu'elle puisse découvrir ainsi la grâce de Dieu. C'est avec joie que l'Église pourra vous aider, si vous le désirez, donc à lui faire connaître la foi, la confession de foi de l'Église universelle qui reconnaît Jésus-Christ comme notre Seigneur. Alors Cathy, la maman de Sophie, va nous proposer une confession de foi, un peu comme un programme de ce qu'ils veulent transmettre à leur fille. Alors ça sera pour nous ce matin, notre confession de foi, donc je vous propose de vous lever pour vous associer à cette confession de foi.
Ma chère Sophie, ma chère Iris, j'ai pris la liberté de paraphraser la confession de foi adressée par le pasteur Martin Luther King à Oslo le 10 décembre 1964. Aujourd'hui, comme hier, j'affirme avec audace ma foi en Dieu, en l'avenir et en l'humanité. Je choisis de croire qu'en dépit des circonstances, les hommes seront toujours capables de rendre la vie sur Terre meilleure. Je décide de croire que l'être humain, même modeste fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, a toujours la possibilité d'influencer le cours des événements. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour auront le dernier mot. La vie demeure toujours plus forte que la mort. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que la vie et l'amour l'emporteront.
Merci beaucoup. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place, sauf le papa de Sophie, qui a voulu nous dire quelques mots.
Voilà. Ma chère Sophie, tu as bientôt un an et tu nous émerveilles tous les jours. Ta sœur Iris aussi et nous écoutons souvent ces derniers jours une chanson dont j'aime les paroles. En voici un court extrait. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Oui, les écrits sont des fondements dans nos vies. En ce lieu, évidemment, par ceux qui sont à la fois la mémoire et l'inspiration de nos vies spirituelles. Par ces signatures que nous apposons, aujourd'hui ou en d'autres jours, pour marquer nos engagements. Par ces lois que l'on écrit pour les rendre lisibles par tous. Ou ces histoires que l'on lira et relira ensuite. Ne dit-on pas des moments qui marquent nos vies qu'ils sont gravés dans nos mémoires ? Comme ton arrivée, Sophie, tes premiers pas, tout dernièrement, et tout un tas d'autres moments inoubliables. Comme ta sœur, tu apprends en grandissant que le langage n'est pas qu'une succession de sons éphémères, immatériels ou insensés, mais bien au contraire une réalité bien tangible, des messages qui nous lient au monde, à nos histoires, à nos vies. Alors, par ces paroles, je te dis notre foi, à ta mère et à moi, en l'avenir, en l'humanité, malgré des aspects parfois difficiles ou incertains. Notre conviction que l'amour triomphera, à la fois celui que nous te portons et plus généralement celui qui existe entre les hommes. Par ces mots, Sophie, je te souhaite de lire puis d'écrire ton propre cheminement dans ce monde, dans ses réalités matérielles et spirituelles, pour ton bonheur et pour le nôtre.
Merci. Et puis donc c'est Giovanni qui va nous lire un passage des Écritures qu'il a choisi.
Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, sans les quitter des yeux, observe le conseil et la prudence. Ils seront vie pour ton âme et grâce pour ton cou. Tu iras sur ton chemin en sécurité. Ton pied n'achoppera pas. Si tu te couches, tu seras sans frayeur. Une fois couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque qui vienne des méchants. Car Yahvé sera ton assurance. Il préservera tes pas du piège.
Merci beaucoup. Et donc avec grande joie, nous accueillons maintenant M. Rémy Grenon, qui a demandé le baptême. Alors c'est intéressant à la fois à la religion chrétienne, il l'a abordé avec énergie, et puis malgré son emploi du temps très chargé, il l'a abordé donc avec intelligence, avec travail, il travaille d'ingénieur, mais d'ingénieur sensible, et donc il a acheté une Bible. Il a étudié en grande partie, des grandes parties, des parties essentielles. Il a fouillé dans notre site internet, il a suivi des prédications, Puis il a lu le livre de Gagnebin et de Picon, Protestantisme, la foi insoumise, ce qui est un bon choix. Et puis aujourd'hui, Rémi a souhaité être baptisé dans cette église de l'oratoire, où il a trouvé des éléments décisifs dans sa quête de Dieu, dans ce cheminement avec le Christ. Alors ce baptême, c'est le signe de la confiance que Dieu a en vous, Rémi, dans votre intelligence et dans votre cœur. Alors je vous propose de vous approcher maintenant de ce baptistère pour être baptisé. Oh Rémi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Rémi, Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne sur la route qui sera la vôtre. Il vous sanctifie. Il vous soutiendra si vous en aviez besoin. Il luttera à vos côtés. Il répondra à vos questionnements et il questionnera vos réponses. Dieu vous accompagnera sur le chemin de la vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. Alors le baptême, c'est le signe du oui de Dieu sur votre personne, sur votre cheminement. Ce oui appelle, il espère, un autre oui, celui de votre oui à Jésus-Christ, de oui à ce Dieu qui est source de la vie, qui se manifeste de mille façons mystérieuses dans l'univers et dans la personne humaine. Alors, ce oui de la personne qui confesse publiquement Jésus-Christ, vous avez le temps de le faire. Vous avez choisi finalement de prendre le temps de poursuivre ce cheminement de la quête de Dieu avant de faire plus tard une profession de foi. Eh bien, c'est très bien. Nos pensées vous accompagnent dans cette recherche que vous poursuivrez à Lyon, où vous amène donc un stage que vous allez faire, peut-être après en Finlande, où vous allez ensuite pour travailler. Donc oui, que Dieu vous accompagne sur ce cheminement plein de rebondissements et de surprises. Il vous bénit. Nous prions Dieu. Notre Père, nous te remercions profondément pour Rémi que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Bénis-le pleinement, ô Éternel notre Dieu, et bénis à travers lui tous ceux qu'il va rencontrer, ceux avec qui il va travailler, ceux avec qui il aura une parole, une discussion, ceux avec qui il s'attachera, et puis tous ceux qu'il aura à cœur d'aider. Que son exemple de recherche de Dieu nous inspire, qu'il nous appelle à nous-mêmes jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à avoir l'intelligence et l'humilité de faire des pas en avant avec toi et grâce à toi. Et puis que ta joie, ô Éternel notre Dieu, soit notre force. Grand merci. Dans un long travail se développant sur plusieurs années, notre Église travaille à se donner une confession de foi. Alors à quoi cela sert-il? Quand une personne désire entrer officiellement dans la foi chrétienne, répondre à cette grâce de Dieu par sa foi, il lui est demandé de dire une confession de foi. Peut-être avez-vous fait ce geste et êtes venu ici au milieu de l'Assemblée des fidèles pour dire une confession de foi que vous aviez préparée. Peut-être vous vous préparez vous-même à dire une confession de foi, à demander un baptême d'adulte. Alors est-ce que c'est si important que ça, de confesser sa foi? Et à quoi cela sert-il? Et est-ce que c'est biblique, cet appel à faire une déclaration de foi? Mais en tout cas, il y a des exemples dans la Bible et je vous en ai trouvé trois que je vous propose pour nourrir notre réflexion. Alors d'abord, dans le livre de Deutéronome, il y a ce passage si connu que Jésus le cite dans l'Évangile, le transforme, se l'approprie. C'est le Shema Israël que les Juifs disent donc le matin en se levant, le soir en se couchant et qu'ils mettent dans une mezouza sur le montant de leur porte. Au
chapitre 6 du livre de Deutéronome, les versets 4 et 5. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors ensuite, je voudrais vous lire un passage qui est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 20, où, en dehors finalement de l'Évangile lui-même, Jean dit quelle est son intention fondamentale en écrivant ce témoignage qu'est son Évangile. Donc au chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore, nous dit Jean, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre que je vous donne. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en ayant foi, vous ayez la vie en son nom. Alors il explicite peut-être un peu dans sa première lettre, la première lettre de Jean au chapitre 4, cette confession de foi fondamentale que l'on retrouve si souvent dans les évangiles, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Au chapitre 4, je vais vous lire les versets 14 à 21. Il nous dit, Jean, « Et nous avons connu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui éternellement. Et voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais pour nous, nous aimons parce que nous avons été aimés le premier par Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour rendre grâce à Dieu pour cet amour incroyable qu'il a manifesté en Christ, je vous propose de chanter ensemble le psaume 81, toujours dans le psautier français, que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu. Les trois strophes du psaume 81. Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles par la lumière de l'Évangile, de la parole qui résonne au plus profond de nous-mêmes. Alors oui, que ta parole nous touche vraiment, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Et que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Que ton esprit nous réveille, nous aide à nous tenir debout, libres et joyeux. Suscite des liens entre nous tous, des tendons qui nous tiennent ensemble comme les membres d'un même corps, avec de véritables articulations. Oui, nous comptons sur toi, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Une des confessions de foi essentielles que contient la Bible est donc le Shema Israël que Jésus reprend et enrichit encore. Moïse invite le croyant à dire ce texte en se levant et en se couchant au pied de son lit, à le dire en partant en voyage et à en faire la base de l'enseignement des enfants. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et puis Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Nous avons donc là une confession de foi en un seul article. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Un seul article de foi, de théologie, qui est enchâssé dans un appel à être en relation avec Dieu, à l'écouter et à l'aimer. Alors d'un point de vue théologique, cette déclaration de foi, Yahweh Eloheinu, Yahweh Erad, est extrêmement profonde et intelligente. Elle propose deux conceptions de Dieu différentes, et au lieu de les opposer, elle nous invite à les réunir, à les conjuguer, à les mettre en dialogue. Et donc cette confession de foi nous empêche d'enfermer notre conception de Dieu dans une théologie étroite. Et puis elle nous invite aussi à nous réconcilier entre nous, frères et sœurs en humanité, avec nos théologies différentes, avec nos théologies apparemment irréconciliables, et aller au-delà, finalement, même de notre propre théologie, dans l'écoute de cet éternel Dieu, et puis dans l'engagement aussi de notre cœur, de notre vie, dans cette relation à Dieu. Et finalement, ce qui pouvait sembler n'être qu'un cadre, finalement, à cette déclaration de foi théologique, l'éternel Dieu, l'éternel est un, eh bien cette invitation à écouter Dieu personnellement, se écoute et se aime, nous disent finalement beaucoup plus, je pense peut-être, sur Dieu même que la déclaration théologique qui est au milieu. Dieu est quelque chose ou quelqu'un qui me concerne, qui s'adresse à moi directement. Et puis ensuite, je pourrais découvrir qu'il est un être complexe, à la fois Yahou, c'est-à-dire source de l'être, de vie, de tendresse, toujours en devenir et si proche de nous finalement, intérieur à nous-mêmes. Et puis Elohim, une réalité tellement plus grande que tout ce que nous connaissons, ce qui fait que rien ne peut lui être comparé et qu'à la limite on ne pourrait rien en dire. Jésus reprend cette confession de foi fondamentale et il y ajoute une invitation à la réflexion personnelle et pas simplement à l'écoute servile finalement. Tu l'aimeras avec ton intelligence. Et puis à Jésus, il ajoute un appel à la créativité dans le service des autres et dans le développement de soi, libéré par cette écoute intelligente. Donc oui, Jésus nous appelle bien à confesser notre foi en Dieu, à le faire de façon intime, intelligente et engagée, par nos paroles et par nos actes. L'appel à notre intelligence nous autorise, nous invite à faire de la théologie, à ce que cette mystérieuse tension entre Yahou et Elohim, entre ces deux faces de Dieu, entre le Dieu hyper transcendant et puis ce Dieu qui est là, au pied de mon lit, dans mon être profond, ces deux faces de Dieu ne soient pas une façon de disqualifier la théologie, de dire qu'on ne peut rien dire de Dieu, mais au contraire, l'appel du Christ nous invite à oser penser cette tension par nous-mêmes et à en vivre, qu'elle nous mette en route, qu'elle nous dynamise. Le Notre Père, cette prière que Jésus nous donne, reprend finalement cette même dynamique et cette même tension que son chemin revisité. Jésus invite le croyant à s'isoler puis à confesser Dieu comme notre Père qui est aux cieux. Finalement, il y a là le cœur aussi d'une confession de foi théologique, d'une croyance, d'une confession de croyance. Ce Notre Père, c'est notre Père à tous, et non pas mon seul petit Dieu à moi tout seul, qui suis là, seul, dans ma chambre à coucher. Même si c'est aussi mon petit Dieu à moi, et c'est là l'incroyable nouvelle, que le grand Dieu au ciel, c'est-à-dire infiniment au-delà de notre horizon, de notre univers, ce grand Dieu du ciel, ce Dieu infiniment autre, transcendant, incompréhensible, par définition même, que ce Dieu soit aussi proche de moi, que peut l'être un père et une mère aimant pour son bébé. Une personne à qui je peux m'adresser finalement, interpeller par ces quelques mots, notre Père. Et puis un Dieu qui a quelque chose à nous dire, qui cherche à me parler, à moi, dans l'intimité. Alors fondamentalement, la confession de foi d'Israël et celle de Jésus aussi, bien évidemment, est de ce type. Elle comprend une étincelle de déclaration théologique la plus ramassée possible, tout en évitant de mettre la main sur Dieu. Et elle confesse un Dieu que l'on prie, un Dieu qui parle. C'est une confession de foi intime, quotidienne, que nous est proposée. Une confession de foi faite dans son lit ou au pied de son lit. Non pas tellement en public, finalement, c'est autre chose. Même quand on ne sent pas Dieu, même quand on ne le sent plus, même quand on ne l'a jamais senti, peut-être, même quand on ne croit plus en rien, ou même surtout quand on ne croit plus en rien, il est possible de dire cette confession de foi intime. Une déclaration de foi qui commence par écoute, elle est faite quand on a besoin de Dieu, finalement, quand on l'espère, quand il ne parle pas encore. C'est une déclaration de foi en tant que recherche de Dieu, quand on a cessé d'avoir des certitudes absolues sur Dieu. Et le Notre Père aussi est de cet ordre, finalement. Alors, il y a une déclaration de foi qui est un autre type qu'une déclaration de croyance ou une déclaration de recherche de Dieu. Dans la Bible hébraïque, il y a aussi une confession de foi qui est d'un autre type, non pas en quatre mots, mais en un seul mot. « Inéni, me voici ». C'est une déclaration de foi en tant que réponse, réponse à Dieu qui s'est approché, qui m'a interpellé, le Dieu qu'on a senti. Cette réponse, elle est souvent intime, elle aussi, bien sûr, dans la prière, dans le face-à-face avec Dieu, dans un bond peut-être que peut faire le cœur à un instant, dans le oui à une vocation que l'on ressent, dans la constatation que Dieu a placé un signe, répondu à quelque chose. Cette confession de foi en tant que réponse, elle est parfois, donc un inéni tout personnel, elle est parfois plus collective, comme ce fameux « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » ou bien le limpide « Amen, Amen » du peuple après la lecture publique de la Torah par Esdras. Ce « Amen », c'est un adverbe finalement. Ce n'est pas une sorte de cri magique, c'est un adverbe formé sur la racine du mot « foi », « emuna » comme « amen ». Alors on pourrait le traduire, si on veut garder ce côté un peu adverbe de « amen », par « en faisant confiance » ou « en m'attachant fortement ». Et donc un adverbe qui teinte tous les verbes de notre vie, une façon d'être, une façon de vivre, de penser, d'espérer, de parler, de témoigner, d'agir, d'aimer peut-être. Et donc nous avons reconnu dans les textes bibliques trois types de confession de foi. Une théologique qui ose dire quelque chose sur Dieu, même si c'est impossible de le faire vraiment, tout en évitant explicitement de l'enfermer dans une simple croyance, ni de se le réserver pour soi, n'étant pas seulement mon Dieu, mais notre Dieu, notre Père à toutes et à tous, toujours à découvrir. Et puis il y a une confession de foi aussi au sens de recherche délibérée de Dieu. Et puis une confession de foi en tant que réponse au sentiment d'avoir été appelé par Dieu. Vu ainsi, la confession de foi n'est pas quelque chose de figé, elle est alors plutôt comme un véritable moteur. Elle peut être même être un véritable bolide finalement, nous amenant très loin, toujours plus loin, très haut, toujours plus haut et toujours plus profond dans la profondeur de l'être. Alors oui, ce moteur d'une triple confession de foi peut changer notre vie, la rendre plus vivante et plus active, en marche. Ayant reçu des autres une certaine idée de Dieu, peut-être par quelques mots théologiques que nos parents nous apprendront, que d'autres, dont d'autres ont témoigné, que la Bible nous permet de rechercher, mais aussi tant d'autres livres, tant d'autres traces. Alors oui, nous pouvons avoir reçu une certaine idée de Dieu, de ce Dieu infiniment autre et pourtant si proche qu'il nous est, en certaine mesure, intérieur à nous-mêmes. Nous pouvons alors personnellement et collectivement le chercher, si nous ne l'avons pas encore senti, l'attendre, ouvrir un espace pour lui dans notre agenda et dans notre façon d'évoluer, de penser. Et cette attente, toujours à continuer finalement, cette attente est alors à large spectre, puisque tout ce que nous dit finalement la déclaration de croyance, c'est que Dieu est surprenant et qu'il y aura quelque chose encore de neuf à nous apporter, quelque chose de personnel qu'il n'avait jamais dit à un autre avant et qu'il veut nous chuchoter et nous dire, ou bien mettre à l'intérieur de notre conscience sans que nous sachions d'où c'est venu. Nous avons alors toutes les chances d'évoluer par ce quelque chose pour lequel nous nous sommes ouverts. Oui, nous avons toutes les chances, puisque Dieu ne demande pas mieux que de nous parler, si nous nous plaçons donc à l'écoute, vraiment, avec large spectre d'attente, toutes les chances que cette rencontre mystérieuse se produise, de façon spectaculaire ou de façon diffuse, peut-être discernée seulement après coup. L'Éternel était là et je ne le savais pas. Alors nous avons toutes les chances alors d'évoluer et d'arriver peut-être à cette troisième confession de foi qui est celle d'un « me voici » et d'un « amen » qui ouvre sur l'action mais aussi sur un retour à la première déclaration de foi théologique enrichie de nouvelles connaissances de Dieu mais de connaissances expérimentales cette fois, plus subjectives sans doute, mais subjectives dans le bon sens du terme, comme une relation, comme une expérience d'une relation avec quelqu'un. Et d'autant plus humble sera alors notre confession de foi de croyance que l'on connaît mieux en Dieu en vérité et que nous avons senti qu'il est tellement autre, différent, surprenant, plus haut, plus profond et plus large que nous ne pouvons le dire. Alors le Christ n'exige jamais de confession de foi pour accueillir quelqu'un dans son groupe de disciples. Ce n'est pas le genre de la maison, évidemment. Et il va dans la maison d'une personne et mange avec lui sans condition, ni de baptême, ni de façon de vivre, ni de croyance, ni de qui ou de quoi. Mais quand Jésus demande à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» il appelle une confession de foi. Et c'est une question ouverte. Et Simon-Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette confession de foi centrale se retrouve partout dans la première génération de chrétiens. Cette confession de foi, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, on la retrouve souvent dans l'Évangile. C'est la confession de foi de Nathanaël avant Pierre. C'est la confession de foi de Marthe. C'est celle de l'Éthiopien ensuite, baptisé par Philippe. C'est la première prédication de l'apôtre Paul, nous dit le livre des Actes. Et le cœur de cette confession de foi chrétienne, n'est alors plus une doctrine de Dieu, fût-elle riche ou ouverte. Le cœur de la foi chrétienne, c'est une personne, Jésus, qui incarne le projet divin pour la personne humaine, pour l'être humain individuel, personnel. Alors Jésus ne remplace pas les confessions de foi précédentes, elle ne remplace pas nos confessions de foi futures. Au contraire, Jésus accomplit les confessions de foi anciennes. Ce moteur en trois temps de la confession de foi, de croyance, de recherche et de rencontre avec Dieu. Oui, il incarne tout cela, une théologie géniale, une attitude d'écoute amoureuse et une disponibilité confiante. C'est ce moteur que nous voyons enfin incarné dans une personne. Alors si on transformait cette personne de Jésus en doctrine sur Jésus ou sur Dieu, ce serait comme empailler Jésus, le tuer, le dépecer, le vider de sa substance, de son cœur, de son cerveau, comme on le faisait pour les pharaons, le vider de ses tripes, de sa personnalité et de sa foi. Mais c'est tout autrement que cette confession de foi, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, est vitale pour nous, selon l'apôtre Jean, dans ses textes. Il fait de cette confession de foi en une personne, Jésus, qui est Christ, Sauveur du monde et Fils de Dieu. Il en fait l'intention même, finalement, de son écriture, d'un évangile. Pourquoi ? Il nous dit que parce que, ayant cette foi, nous avons la vie en son nom. En ayant cette foi, non pas cette croyance en Jésus comme ceci ou comme cela, mais cette foi de Jésus, cette foi qui est comme un moteur qui nous fait cheminer toujours plus avant, toujours plus haut, toujours plus profond, toujours plus engagé dans la vie même de Dieu finalement. C'est ce que Jean développe aussi dans sa première lettre. Il nous invite à confesser publiquement cette confession de foi, mais cette confession de foi vivante en Jésus, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Alors pourquoi publiquement ? Jean ne se serait pas gêné de dire « Ben oui, vous avez connu Dieu en Christ, et bien maintenant ça vous donne un devoir minimum de solidarité avec les frères et sœurs en humanité qui n'auraient pas la chance de connaître le Christ. » Mais ce n'est pas ce que dit, ce n'est pas la raison que donne Jean pour ce devoir de confesser publiquement notre foi en Jésus comme Christ et comme Fils de Dieu. Ce n'est pas non plus une question de chantage, comme si Dieu récompensait les bons petits soldats de l'Église qui vont bien annoncer l'Évangile partout dans le monde en chantant un cantique à la bouche du métro. Puisque Jean insiste pour dire que Dieu est amour et qu'il nous a aimés le premier, il n'est pas question de chantage dans une croyance ou dans ceci ou dans une profession de foi pour qu'il nous aime. Mais c'est pour une autre raison que Jean nous invite à confesser publiquement notre foi. Il nous dit que cela nous fait participer à la vie même de Dieu. Voilà ce que dit Jean. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors quel rapport entre confesser publiquement Jésus et vivre de cette vie divine ? C'est que tous les niveaux de ce moteur à trois temps, de la confession de foi, impliquent une dimension collective en fait. Pour découvrir comment Dieu n'est pas seulement mon Dieu, mais notre Dieu et notre Père, il est indispensable de ne pas rester à une foi seulement intérieure, intime, au pied du lit. Cette dimension intime, elle est effectivement le cœur même du moteur de la foi, mais elle doit s'enrichir de celle des autres. Alors le verbe traduit ici par « déclarer publiquement », c'est en fait « homologeo », qui signifierait plus littéralement « confesser avec les autres, d'un seul cœur avec les autres, comme un bouquet de réflexions sur la théologie biblique, mais aussi parce que fondamentalement, ce que Jean a contemplé finalement dans le Christ, c'est l'amour de Dieu, nous dit-il. Et donc pour saisir un tant soit peu finalement la base même de la théologie chrétienne, il faut au moins vaguement maîtriser le concept de ce que c'est qu'aimer, ce qui n'est possible finalement que dans une relation un tant soit peu aimante et fidèle avec les autres. Alors ensuite, pour ce qui est d'écouter Dieu et de l'aimer, là aussi donc de le rechercher, Là aussi, le cœur de cette écoute et de cette relation à Dieu est profondément intime. C'est un cœur à cœur, avec Dieu dans le silence fait devant Dieu, un silence régulier, un silence et une attente, une écoute inlassable, bien sûr. Mais il passe tant de choses au plus profond de nous-mêmes qu'en discuter avec un tiers, ça peut nous éviter de nous construire une chimère à la place de Dieu, du Dieu dont vit Jésus-Christ. Et c'est cela aussi, aimer et écouter Dieu avec toute son intelligence, c'est l'aimer aussi, l'écouter aussi, l'attendre aussi, avec d'autres. Et enfin, pour ce qui est de l'expression de notre foi, l'expression de ce que Dieu a accompli en nous, la foi expérimentale, chacun selon sa propre et singulière expérience de Dieu, certes, mais c'est ensemble que nous formons le corps du Christ, le corps du Christ vivant en ce monde, finalement. Et donc là aussi, c'est ensemble que nous avons besoin de confesser notre foi, de la confesser publiquement, avec les autres, et non en parallèle, et non moins, encore moins contre les autres, mais de confesser notre foi en parole et en acte solidaire. Il y a donc, oui, intrinsèquement, finalement, une dimension collective à notre foi chrétienne, même si l'essentiel demeure dans un mouvement intime et personnel qui fait de nous, finalement, comme le Christ l'incarne très bien, un fils ou une fille du Dieu vivant et quelqu'un apportant quelque chose du salut que Dieu espère pour ce monde et pour l'humanité. Mais donc finalement, cette confession de foi publique, ce n'est pas tant un acte liturgique qu'une vie finalement, d'une vie qui est aussi avec les autres. Alors qu'en est-il de cet acte liturgique de confesser sa foi au milieu de l'assemblée ? Ce n'est bien entendu pas indispensable, ce n'est pas non plus magique. Et puis Dieu ne tient pas un registre administratif où il relèverait, comme nous le faisons, qui est baptisé ou non, qui a fait ou non sa profession de foi dans telle ou telle église. Mais Dieu se réjouit de voir notre foi en forme, le moteur de notre vitalité gonflé à bloc et déjà rugissant pour nous amener loin, haut et profond. Alors cela se travaille d'être en forme, d'avoir ce moteur finalement de la foi qui roule bien, qui ronronne à l'intérieur de nous-mêmes pour nous pousser. Cela se travaille. Et c'est en posant des gestes forts, en posant des gestes impressionnants, en posant des gestes visibles dans notre cheminement de vie, dans notre itinéraire, eh bien, quelque chose s'imprime plus profondément en nous, et puis dans les autres autour de nous. Et c'est d'autant plus précieux que la vérité désignée par ces gestes est complexe, non matérielle, toute intérieure, spirituelle, non palpable. Alors en demandant à être baptisé soi-même, en demandant le baptême de son enfant, en confessant sa foi publiquement, ou en se mariant avec Dieu, en soi, ça n'a aucune importance, bien sûr. Mais on implique son être dans de multiples dimensions qui s'en souviennent, finalement. On apprend aussi que nous sommes légitimes, personnellement, et que notre point de vue est attendu, il est nécessaire aux autres, il est nécessaire au monde, il est nécessaire à Dieu. Et puis que de vraies confessions de foi publique, des paroles et des actes, celles des autres et les nôtres, sont à apprendre, sont à écouter, sont à tisser, sont à mettre ensemble, et que donc, oui, nous pouvons poser de tels gestes, et que cela va nous aider. Alors que deviennent nos confessions de foi ensuite, nos confessions de foi publiques ? Il y en a de fort belles qui expriment la foi d'une personne, celle d'une paroisse, celle d'une église, celle d'un couple. Elles sont souvent aussi touchantes qu'une lettre d'amour à Dieu, lettre d'amour à la vie, à la beauté de ce qui est d'être humain en ce monde avec d'autres. Elles sont souvent aussi passionnantes qu'un essai philosophique. Elles sont souvent aussi touchantes qu'un témoignage sur notre vie, une vie vécue, joyeuse. Elles sont belles, elles sont vivantes, elles tissent souvent un lien fort entre Dieu et celui qui les exprime, osant exprimer finalement quelque chose de la foi et puis tissant, en se disant publiquement, un lien entre nous. D'autres confessions de foi ont été dressées comme des remparts, traçant une frontière pour désigner celui que l'on traite alors d'hérétique. Cet usage de la confession de foi comme rempart contre d'autres, comme rempart à une orthodoxie, elle ne dit rien en fait tellement de Dieu, rien du Christ, rien d'autre que le mal-être de ceux qui vivent ainsi en cherchant à se barricader. Alors au contraire, la simple confession de foi en Christ n'exclut personne. Elle propose de vivre par la foi et pour la foi une vie vivante et personnelle à l'image du Christ qui a révélé tout l'amour que Dieu a pour chacun de toute façon. Que Dieu nous donne ainsi de confesser notre foi. Amen. Et je vous propose de chanter notre louange à Dieu avec le cantique 202, donc dans le petit recueil Louange et prière. Nos cœurs pleins de reconnaissance vers toi s'élèvent, Dieu d'amour, les trois strophes du cantique 202.
Thank you.
Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord que vous pouvez, si vous le désirez, si vous en avez la possibilité, venir au repas paroissial qui est préparé actuellement en face aux 4 rues de l'Oratoire au 2e étage. Donc il y a un couscous royal, un couscous du roi des rois qui est préparé, et puis une gigantesque salade de fraises. Donc grand merci à ceux qui travaillent. Voilà, souvent ça demande 2 jours de travail pour préparer le repas pour comme ça 60-70 personnes. Donc il y a de la place pour vous, même si vous n'êtes pas inscrit. Lundi soir, demain soir, donc à 20h, il y a le groupe d'approfondissement théologique. Donc c'est Jean-Dominique Pasquet, notre organiste titulaire, qui nous parlera la musique et le chant dans la foi protestante. Donc moi je me réjouis beaucoup d'entendre cela, puisque Jean-Dominique Pasquet n'est pas que organiste, il est aussi professeur. Et donc c'est avec joie de l'entendre demain soir, donc 20h aux 4 rues de l'Oratoire. Jeudi, ici même, il y a le culte donc de l'Ascension à 10h30 avec James Woody qui va présider ce culte. Samedi, il y a le cours d'hébreu biblique à 10h et puis le temps de prière silencieuse donc aux 4 rues de l'Oratoire à 18h. Et puis dimanche prochain, il y a donc le culte. Alors c'est un culte un petit peu spécial parce que l'aumônerie protestante aux armées nous a proposé d'intégrer à notre culte le souvenir des morts de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on tombe sur le 8 mai. Et donc nous recevrons des préfets élus gradés à cette occasion, ainsi que des musiciens de l'Armée du Salut. Donc ça, c'est dimanche prochain. Et puis sinon, j'ai une petite annonce. Je suis à la recherche d'une chambre pas chère ou gratuite, tant qu'à faire, pour une personne dont le logement est mis en vente et qui est expulsée à la fin du mois. Et puis comme par ailleurs elle a perdu son emploi aussi, les ennuis volant en escadrille, comme le disait notre président Chirac, eh bien elle est un petit peu embarrassée. Maintenant c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un témoignage de notre reconnaissance et de notre engagement pour que l'Église puisse témoigner de l'Évangile du Christ dans ce monde qui en a tant besoin. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, ah qu'il fait bon vivre en ce monde. Merci pour tout ce qu'il y a de merveilleux dans cette vie, ce qu'il y a de bon en nous. Et puis merci pour cette source de résurrection qu'est ta présence et ta parole. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous inquiète et ce qui nous donne souci. Seigneur, nous pensons devant toi et grâce à toi à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après un problème, un échec, un deuil, après la maladie. Nous pensons, oui, à ceux qui sont en souci pour leur situation et pour leur santé. Nous nous réjouissons avec ceux qui se portent mieux. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers, à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier. Et puis, unis par toi, notre Dieu, avec les croyants, tous les croyants qui cheminent vers toi en Christ, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Demeure par ta grâce, ô Dieu Sauveur, avec chacune et chacun d'entre nous. Amen.